Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, un retour sur Bain de Livres à Saintes, qui rassemblait le 10 août dernier une quarantaine d'auteurs et éditeurs dans la salle Sidney Béchette à Saint-Honoré-les-Bains, commune du parc naturel régional du Morvan. C'est Monique Delarue, secrétaire du cercle culturel Diogène, qui s'est vue confier l'organisation de ce sympathique salon par le maire de Saint-Honoré-les-Bains, Simone Rignoux. Pour ouvrir notre rendez-vous sans tarder, faisons connaissance avec les éditions Cléa que nous présente sa responsable, Nathalie Bretzner.
Alors, cette maison d'édition existe maintenant depuis 23 ans. La ligne éditoriale, comme toute maison d'édition qui se lance en province, a été un petit peu du régionalisme. Et puis, petit à petit, au fil des années, j'ai souhaité me diversifier un petit peu dans des choses qui m'intéressaient, comme l'histoire, les récits témoignages, quelques romans, et puis aussi les recettes de cuisine. Donc, c'est une ligne éditoriale qui est devenue un petit peu plus hétéroclite, un petit peu plus vaste, mais tout en négligeant pas non plus le régionalisme.
Alors, deux ouvrages, trois même avec celui de François Scolin, à qui nous donnerons directement la parole. Vous avez un ouvrage de Jean-Pierre Tarin qui a pour titre « Des bourguignons autour de Napoléon Bonaparte » aux éditions Cléa. Une petite présentation sommaire de ce livre. Pardonnez-moi, je vous demande toujours d'être brève, mais efficace.
Bon, on va essayer. Alors, bon, c'est vrai que Napoléon est pour moi important. Et quand je me suis lancée dans les récits historiques, j'ai fait plusieurs ouvrages sur Napoléon, dont un tout dernier qui s'appelle « La bibliographie napoléonienne » qui vient de sortir et qui est préfacé par Jean Tullard. Mais tout de suite avant, j'avais fait des bourguignons autour de Napoléon Bonaparte. Et j'insiste bien sur des bourguignons, parce qu'on a vraiment essayé de parler aussi bien des Iconnais, des Nivernais, des Côtes-d'Orient et des gens de Saône-et-Loire. Alors, il y a des petites anecdotes, parce que c'est vrai que on parle de Marmont, on parle des grands noms qui ont côtoyé Napoléon, mais il y a aussi, par exemple, beaucoup de personnes dans Lyon, Avallon, Tonnerre, Auxerre, qui ont chacune eu une personne qui, à un moment ou à un autre, ont fait partie de l'armée napoléonienne. Parce qu'il faut bien penser qu'à cette époque-là, c'était une façon de gravir un petit peu les échelons dans la société. C'était véritablement un ascenseur social.
Donc on rappelle le titre du livre, « Des bourguignons autour de Napoléon Bonaparte ». C'est signé Jean-Pierre Tarin et c'est aux éditions Cléa. Et puis alors, autre figure prestigieuse iconaise, le maréchal Vauban, souvenirs actuels du docteur Guy Rérol avec une préface par le vicomte Arnaud de Cigalas.
Voilà, alors le vicomte Arnaud de Cigalas est donc le propriétaire du château de Bazoches et on a choisi Vauban. Le docteur Guy Rérol a fait une trilogie, c'est-à-dire il a commencé par Talleyrand, Vauban et Bussy-Rabutin. Celui que je vous présente, c'est Vauban. Et ce qui fait un petit peu le charme, c'est que vous allez me dire des livres sur Vauban, il en existe des dizaines et des dizaines. C'est tout à fait vrai, mais là, c'est vraiment vu d'une façon totalement différente. C'est-à-dire, le fortificateur, tout le monde le connaît, on en parle. Mais là, on découvre Vauban à travers tous les lieux où il a habité, où il est passé, où il a laissé une empreinte. Et puis, on s'aperçoit que Vauban, c'était un petit peu l'ancêtre des statisticiens. Quand, par exemple, il a voulu mettre au point et recenser tous les électeurs à Vézelay. Et ça s'appelait l'élection de Vézelay. Bon, il y a très peu de personnes qui le connaissent. Et on le découvre à travers cet ouvrage.
Nathalie Bretzner, directrice des éditions Cléa, établie à Dijon. Je vous confie les références du livre dont il vient d'être question. Vauban, souvenirs actuels, signé du docteur Guy Rérol, membre titulaire de l'Académie du Morvan et qui appartient à la société éduenne d'Autun, un ouvrage préfacé par le vicomte Arnaud de Cigalas. Je donne maintenant la parole à Françoise Collin, qui dirigea durant 30 ans le Pré au Clair, restaurant gastronomique, place de la Libération à Dijon. Elle évoque son livre de recettes paru aux éditions Cléa, mais je lui ai demandé de revivre un moment heureux de sa vie où elle croisa l'histoire puisqu'elle fut invitée à déjeuner à l'Élysée le 26 janvier 1984, à la table du président de la République, François Mitterrand.
Je me disais, mais pourquoi moi je suis là? J'étais l'ami et la compagne de Lucien Erard, avec lequel nous avons beaucoup travaillé, et il était l'ami très proche depuis longtemps de Roger Gouze, le frère de Daniel Mitterrand. Et un jour, nous avons été conviés tous les deux, nous étions 8 à table, pour moi un privilège. Et comme vous dites, je me posais la question, que suis-je en train de faire là, la main du président de la République tout près de la mienne sur la table, sur la nappe? Eh bien, quand je suis rentrée chez moi, il a fallu que je raconte ces moments étonnants. Surprenant.
Alors, est-ce que je peux vous demander de communiquer aux auditrices et auditeurs de Radio Ons le menu au déjeuner donc du 26 janvier 1984 auquel vous étiez conviés?
Mais je vous dis, nous étions 8 à table. Alors le président de la République et Madame Danielle Mitterrand ont pris place. Nous avons entendu qu'ils soient assis l'un et l'autre. Et quand on a regardé le menu, moi je vois déjeuner du 26 janvier 1984, ragoût d'huîtres aux poireaux et au jus de truffe. Et l'un et l'autre, le président et madame, ont mangé des huîtres nature. Ils nous ont dit, nous faisons du régime. D'abord, avant de nous asseoir, il y avait le frère de Daniel Mitterrand, qui était à ma droite, le président à ma gauche, Gilbert Mitterrand, qui était là, mon ami Lucien Erard, et deux autres personnes, journalistes. Et Daniel, François Mitterrand s'est assis le premier, et il a dit, la famille, entourons nos amis. Bon, nous nous sommes assis. Alors je vois donc ragoût d'huîtres, mais eux les mangeaient nature. C'était des belons impériaux de toute beauté. Puis nous avions un rognon de veau romarin, des pommes à la peau. C'était la pomme cuite au four, et coupée en tranches et séchée au four. Alors sur le rognon, il y avait des petits brins de romarin frais. C'était au mois de janvier. C'était un menu de le romarin frais, on en trouve, bon. Puis le fromage, et alors le dessert, c'était amusant parce que nous avions un petit soufflet chaud sur une assiette de salade de fruits exotiques. Et nous avons été gâtés parce qu'on avait un pouilly fumé et un Saint-Amour. Quand M. Mitterrand et Mme Mitterrand n'ont bu que de l'eau, mais nous nous sommes régalés avec les vins, voilà. Et notre ami Roger, je le raconte ça, nous devions être conviés à table, on a attendu, nous sommes passés à table et on se disait, le président très occupé va s'en aller, mais non, pas du tout. Il nous a, on a pris le café à table et il nous a raccompagnés dans notre salon où nous avons discuté, nous avons été quand même 2h30 avec le président de la République, que beaucoup de soucis retenaient ailleurs.
Eh bien, dites donc, cher François Scollin, mon Dieu, quel privilège aussi de vous entendre nous raconter cela au micro.
Je ne le dirai jamais assez.
Et alors, parlez-nous une petite anecdote sur les gougères dont l'origine est véritablement tonnerroise.
Le tonnerre, oui, nous le concevons, c'est vrai. Alors, j'ai donné des recettes de cuisine, mon passé de restauratrice. Je suis quand même restée 30 ans dans ce restaurant et j'ai toujours consacré tout mon temps à la gastronomie. Et ce livre de recettes que les éditions Cléane, mon amie Nathalie Brester, a publié, d'une façon originale, si vous regardez les photos, c'est une présentation qui ne ressemble pas du tout à ce que j'avais fait précédemment. On vous présentait une assiette avec le mets cuisiné, tandis que là, souvent, vous trouvez le mets, tous les ingrédients qui vont vous servir pour la réalisation de la recette, et c'est prêt. Bon, ça n'est pas cuit encore. Et j'ai donné des recettes pendant 3 ans dans notre journal local, Le Bien Public, dans le supplément, tous les vendredis, et j'avais toujours ajouté une anecdote. C'était mon côté, j'adorais ça. Alors le jour, c'était la Saint, je ne sais pas quoi, il y avait une anecdote sur un saint, et il faut dire que l'almanach de gastronomie de Christian Guy m'a beaucoup aidé. Et le jour où j'ai fait la recette des gougères, j'avais mis cette anecdote. Napoléon s'est raconté par Novéraz, il était le valet et le courrier de Napoléon. Et pendant que Napoléon était à Sainte-Hélène, son cuisinier, marchand, lui fait des gougères. Il n'y avait pas de fromage, il n'y avait pas de gruyère, il n'y avait pas de comté, il a fait avec du cheddar. Et Napoléon, il dit, quand j'étais lieutenant d'artillerie à Aussonne, c'est tout à côté de Dijon, Madame Noiseau, sa logeuse, réussissait de merveilleuses gougères. Mais moi, je n'avais Dieu que pour sa fille Catiche, mon premier amour. Et on ajoutait, c'est Novéraz qui raconte que tous les soirs, avant de monter dans sa chambre, il glissait un petit billet sous la porte de la jeune fille. Et un soir, le papa s'en aperçoit et le prend par le bras. Il lui dit, ma fille n'est pas pour un petit lieutenant comme vous. Il ne savait pas ce qu'il attendait.
Mamselle Bulle avait un rêve un peu spécial. Pour une bulle, quitter la terre, c'est peu banal. Mamselle Bulle, comme un funambule qui rêverait de s'envoler. À l'envol d'un ballon, Bulle s'est accrochée. Championne de l'aviation,
Bulle commence à s'élever.
Au-dessus des arbres, un alpiniste anglais lui indique le haut de la montagne.
Mademoiselle n'est pas rassurée.
Elle se demande où le ballon se dirige.
Mademoiselle, tout en haut, avez-vous le vertige?
Mamselle Bulle avait un rêve un peu spécial. Pour une bulle, quitter la terre, c'est peu banal. Mamselle Bulle,
comme un funambule qui rêverait de s'envoler.
Balayé par un vol d'hélicoptère,
c'est fou le nombre d'habitants qu'on peut croiser en l'air.
Guidé par les planeurs, le bourdon d'un ULM qui tire derrière lui un drapeau avec écrit
je t'aime.
Dire bonjour aux avions, croiser des hôtesses de l'air.
Bonjour.
Des colombes, des pigeons battant des ailes à l'envers.
Mamselle Bulle traverse les nuages, enfile un pull, il fait froid au-dessus des orages. Mamselle Bulle, comme un ver luisant qui rêverait d'un feu follet.
Mamselle Bulle tourne la tête en arrière, elle aperçoit un point qui ressemble à la terre.
Faut faire vite, une bulle ça peut éclater.
Elle croise Spoutnik, le satellite qui lui a tout expliqué.
Mamselle Bulle n'est pas très noctambule, n'a pas prévu dans son pactage qu'il ferait noir dans les nuages.
Mamselle Bulle, comme un papillon de nuit vers l'étoile qui éblouit.
Au ciel étoilé, Bulle s'est accrochée. Et c'est dans la Voie lactée que Mamselle décida d'habiter.
Ainsi dans le ciel, depuis des millions d'années, Madame la Terre observe cette bulle illuminée. Chaque soir, quand la nuit vient à tomber, Mamselle Bulle surveille jusqu'à ce que le soleil l'interpelle.
Mamselle Bulle,
oh la lune, hey, la lune, c'est le soleil qui te parle. Oh,
Mamselle Bulle,
sur la place, faut que je lève le jour.
Comme un funambule qui rêverait de s'envoler.
Mamselle Bulle avait un rêve un peu spécial.
Ouais.
Pour une bulle, quitter la terre, c'est peu banal.
Mamselle Bulle,
tu sais,
comme un funambule qui rêverait de s'envoler.
Mamselle Bulle avait un rêve un peu spécial. Pour une bulle, quitter la terre, c'est peu banal.
Mamselle Bulle, comme un funambule qui rêverait de s'envoler. Mamselle Bulle, Mamselle Bulle.
Plus proche de vous, partout, pour vous, Radionne, au cœur de la Bourgogne.
Notez bien le 8e Salon du Livre de Migennes, qui se tiendra le dimanche 9 octobre prochain, de 10h à 18h30. L'invité d'honneur sera Didier Deninx. On annonce également la présence de Thierry Roland, de Jane Manson, Didier Cornaille. 110 écrivains, libraires, éditeurs et artisans du livre seront donc rassemblés à la Salle des Sports de Migennes le 9 octobre prochain. Fidèle à Bain de Livres à Saint-Os, Gérard Gauthier et les éditions de l'Armançon étaient présents et au stand de la maison d'édition installée à Précy-Soutil et créée en 1987 par Gérard Gauthier, nous avons rencontré Dominique Ponviane. Dominique Ponviane, connue pour son premier roman, La fille d'Arachné, et elle a publié aux éditions de l'Armançon La nuit de sa main, un roman qui abordait la figure historique de la dame de Vix. Dominique Ponviane nous présente ce soir son dernier roman, un livre de souvenirs, un texte à trois voix écrit avec son frère Jean-Claude Chevalier et intitulé « Le voyage à l'envers ».
Là, ce sont nos souvenirs. Le voyage à l'envers, c'est donc le voyage, un retour dans le monde des souvenirs.
Alors, c'est un voyage qui... Ce voyage à l'envers évoque deux périodes et trois personnages. Alors, vous avez trois voix dans ce livre. La voix du père, qui est un peu une voix off, comme au cinéma. Et puis la voix de ses deux enfants, de ce fils aîné et de la petite fille, qui est la dernière de la famille, qui est encore une fillette. Et ces trois voix se répondent en quelque sorte. Le frère aîné évoque la vie du père quand il est enfant, une vie absolument toute simple, lorsque son père aîné dans une ferme dans le Morvan, à Manlay. C'est un enfant, le dernier de la famille, qui est mal aimé. C'est un mal-aimé, tout bêtement. C'est pas une famille qui est pauvre du tout, qui a une certaine aisance, qui a des idées d'avant-garde, puisque c'était une famille très, très socialisante, mais qui néglige complètement ce petit dernier, à 12 ans, qui le retire de l'école et qui l'envoie en apprentissage dans une charcuterie à Beaune, où c'est un enfant qui est complètement abandonné, qui souffre énormément. Bon, et tout son apprentissage est quand même très dur, très pénible. Donc ce père évoque sa vie d'enfant et son autre vie qui l'a énormément bien sûr marqué, comme tous les hommes qui ont subi ce genre de choses, sa vie de prisonnier en Allemagne, sa vie de soldat d'abord et sa vie de prisonnier en Allemagne. Et sa vie de prisonnier en Allemagne, il le montre bien à son fils, la face blanche et la face noire des êtres humains. Donc, il lui parle de cette phase où il était prisonnier, où il était gardé par les nazis, qui était absolument atroce. Particulièrement lorsqu'il était emprisonné au Fort Queuleu, à côté de Metz, où c'était vraiment, d'ailleurs, les nazis faisaient en quelque sorte une expérimentation sur eux, puisqu'ils les gardaient dans des conditions épouvantables qui ont été ensuite appliquées aux résistants, qui ont été enfermés quelques années après, à la fin de la guerre, dans ce fort où on les a torturés, etc. Et puis, il parle à son fils également de la face blanche des êtres, lorsqu'il est chez ce fermier allemand, qui est absolument, qui est un homme bon, qui a fait d'ailleurs la guerre précédente, la première guerre 14, et qui est très humain avec lui, qui le traite bien, il mange à la table familiale, il est avec eux, etc. Alors, en dehors de l'évocation du père, il y a l'évocation du fils, qui raconte la vie de son père, mais qui évoque également toute la vie qui les entoure, puisque ça se passe dans les années 50, qui évoque également toute la vie qui les entoure. Alors la vie de Cormeau, qui est un village à côté de Nolay, alors qui est un village voué à la vigne, comme toute la région, et qui est une vie extrêmement simple aussi, très belle, très pure quelque part, une vie qui n'est pas facile, car à cette époque-là, le vin n'avait pas le prestige qu'il a maintenant. Et puis, par derrière, il y a une petite fille qui est en train d'observer tout ce monde, qui observe son père, qui observe son frère aîné. Il y a un petit peu de dissension entre les deux. Et puis, qui observe tout ce village où elle vit, où elle joue avec les autres enfants du village. C'est une vie par le détail, si vous voulez, par le petit détail, la vie très très simple de tous ces gens qui étaient des gens, je vais employer un mot très employé à l'heure actuelle, qui étaient des gens solidaires, qui étaient des gens humains, qui étaient des gens qui se prêtaient main forte dès qu'il y avait quelqu'un, un vigneron qui était malade, les autres faisaient sa vigne à sa place, rentraient sa vendange s'il ne le pouvait pas. Donc elle évoque tout ça, elle évoque ses parties de cache-cache, elle évoque lorsque elle est très, très sensible, lorsque son grand-père, par exemple, tuait un lapin pour le repas du dimanche, lorsqu'il fallait faire la lessive parce qu'on n'avait pas de machine à laver le linge. Donc c'était toute une expédition, il fallait partir, aller au lavoir, il n'y avait pas d'eau dans le lavoir en été. Enfin, c'était, il y avait une vieille demoiselle qui venait justement pour faire la lessive, qui gagnait quelques sous. C'était des gens qui vivaient d'une façon absolument dont on n'a plus idée maintenant, qui vivaient de quelques petits travaux, des vies extrêmement simples, mais des vies très belles quand même. C'est surtout ça qui m'a motivée pour écrire ce livre.
Le voyage à l'envers, signé Dominique Ponviane et Jean-Claude Chevalier, paru aux éditions de l'Armançon. Restons au stand des éditions de l'Armançon, puisque nous allons à la rencontre de Michel Razera. Membre de la Cour des comptes régionale de Bretagne, il a également été vice-président du conseil régional de Bourgogne. Dans Dupin l'aîné, un Hivernais au centre de la monarchie de Juillet aux éditions de l'Armançon, Michel Razera s'est intéressé à ce personnage nivernais qui devint président durant 10 ans de la Chambre des députés, en même temps que procureur général près la Cour de cassation.
Si les éditions de l'Armançon sont incontournables en Bourgogne, Dupin l'aîné l'est aussi. Mais on l'a contourné en Bourgogne. On l'a contourné parce qu'on lui a préféré dans un de ses compatriotes, qui est Claude Tillier, l'auteur de Mon oncle Benjamin, que Édouard Molinaro a fait connaître en réalité, et qui a été l'ennemi à travers les pamphlets de Dupin l'aîné. Or, Dupin l'aîné, s'il a été contourné, il devrait être, comme les éditions d'Armançon le sont aujourd'hui, incontournable. Car c'est un des grands personnages de la Nièvre. La Nièvre produit des belles prairies, des beaux bovins, mais aussi des bons présidents.
Des belles nourrices, galvachés.
Et de bons galvachés. Et le président Dupin l'aîné a été président pendant plus de 10 ans de la Chambre des députés, en même temps exerçant les fonctions de procureur général près de la Cour de cassation. Imaginons aujourd'hui ce cumul des responsabilités qui caractérisait cette monarchie de Juillet. Or, ce personnage, qui était un personnage relativement opportuniste, un peu frileux, a quand même été désigné comme président de la Chambre des députés sous la République, après 1848. Donc c'est un personnage qui mérite d'être connu. Alors il l'est en France, surtout par ses grandes plaidoiries, parce qu'en même temps il était avocat, et c'est lui qui a défendu les maréchaux de l'Empire, et en premier lieu le maréchal Ney. Ce juriste qui a écrit des centaines d'ouvrages ou d'articles, en fait, si j'en recommandais, ce serait, et qui a été republié récemment, c'est un ouvrage sur le Morvan. Très intéressant, souvent cité par les auteurs. Dupin l'aîné, c'est l'aîné de 3 Dupins, dont l'un, Charles Dupin, est un grand scientifique qui a, je dirais, je résume, inventé les statistiques dans notre pays. Et puis un autre frère qui était député de Lyon, qui a repris le cabinet d'avocat de son frère aîné et qui était député d'Avallon, mais qui est mort assez jeune. Voilà, donc j'invite à connaître à la fois les éditions d'Armançon et puis Dupin l'aîné, car, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, dans la Nièvre, la Nièvre qui est un pays un peu au centre, un peu oublié parfois, or c'est un pays qui a produit de grands écrivains. Et dans cette région de Clamecy, Dupin l'aîné, nous avons Jules Renard, nous avons Romain Rolland, nous avons Claude Tillier. C'est une terre, la Nièvre, riche en culture, en charolais, mais c'est une terre aussi riche en hommes qui ont eu une influence sur l'ensemble du pays.
Quand on part à bicyclette, en groupe avec les copains, les cheveux dans le vent, sur les petits chemins, on chante de gais refrains. On a tout
tous le cœur en fête lorsque l'on est entre amis. Comme au bon vieux temps, jamais on s'ennuie, loin de la foule et du bruit. On se souvient des grandes vacances, des blés mûrs à l'époque des moissons, des beaux souvenirs de notre enfance, des premiers baisers, des grands frissons. On profitait avec insouciance de cette vie qui s'offrait ici. On était heureux, roulant deux par deux, sur le chemin de l'adolescence. Quand on fera bicyclette, en groupe avec les copains, les cheveux dans le vent, sur les petits chemins, on chante de gais refrains. On a tous le cœur en fête lorsque l'on est entre amis. Comme au bon vieux temps, jamais on s'ennuie, loin de la foule et du bruit. Nous retournons toujours en vacances dans notre petit coin merveilleux, en pensant à notre belle enfance, aux souvenirs de ces jours heureux. On dit adieu à notre insouciance, maintenant que nous avons grandi. Avec nos enfants, on roule maintenant sur le long chemin de l'existence. On reprend nos bicyclettes pour rouler dans le matin. On suit tout comme avant tous les petits chemins, en chantant de gais refrains. Nous avons le cœur en fête en retrouvant nos amis. Les cheveux au vent, on part en chantant, loin de la foule et du bruit.
C'était Christiane Fomerand, sociétaire professionnelle des auteurs de la SACEM, compositeur, écrivain et poète, et qui était présente au salon Bain de Livres à Saint-Honoré-les-Bains le 10 août dernier. Chère Christiane, une tendre bise s'envole jusqu'à vous qui nous écoutez sur le www.radion.fr à Cône-sur-Loire. Et puis je rappelle que l'accordéon sur Radion, c'est tous les dimanches matins de 10h à 11h avec notre ami André Trichot. Je vous propose maintenant de faire connaissance avec l'association La Morvandelle et avec le mensuel Le Morvandio de Paris. Pour cela, je laisse la parole à son responsable, Morvandio d'origine, Alain Barouin.
Je suis originaire du Morvan, d'Ouroux-en-Morvan par mon père, mais j'ai vécu toute ma vie professionnelle à Paris, tout en ayant une résidence secondaire à Ouroux. Je me rends à peu près tous les mois.
Alors un Parisien, certes d'adoption, mais surtout un Morvandio de cœur qui s'investit dans l'association La Morvandelle, qui a été créée en 1924 et dont vous présidez.
Alors, je préside cette association depuis 1997. J'ai succédé à quelqu'un qui était bien connu dans le Morvan, à Joseph Brûlé, qui notamment a écrit 3 livres, Morvan, cœur de la France. Et je vois qu'il est en vente maintenant dans les boutiques d'occasion. Et cette association a été créée en 1924 avec une finalité philanthropique, une finalité d'entraide, car les gens, à cette époque-là, il y avait l'exode rural. Beaucoup de gens du Morvan étaient contraints d'aller travailler à Paris. Et en 1924, 1930, il n'y avait pas les congés payés qu'on connaît depuis 1936. Il n'y avait pas les moyens de locomotion que l'on connaît aujourd'hui. Donc les gens étaient un peu des immigrés de l'intérieur. Et certains ont eu l'idée de créer une association pour se rencontrer régulièrement. Ils se rencontraient régulièrement, notamment au travers de balles de bal qui était organisé tous les 15 jours dans une mairie à Paris. Malheureusement, c'est passé de mode depuis les années 1980-90. Donc il n'y a plus de balles des Morvandiaux de Paris, mais c'était des balles qui étaient réputées. Et il y avait aussi une entraide pour aider les gens qui se sentaient un peu seuls dans la capitale. Et a été créée en 1924 également une publication qui s'appelait à l'origine la Gazette du Morvan. Elle s'est appelée le Morvandiaux de Paris 3 ans après. Et ça demeure toujours. Hein, on le publie tous les mois. Alors je distinguerai deux finalités. La finalité d'origine, qui était une finalité d'entraide, de solidarité, essentiellement. Et la finalité d'aujourd'hui, qui est une finalité plus culturelle, plus touristique aussi, puisque nous sommes la Morvandelle, la vitrine du Morvan, et voire même de la Bourgogne à Paris. Nous sommes 25 rue Saint-Maur dans le 11e. Et nous avons pour finalité de mieux faire connaître le Morvan, ses coutumes, son histoire et aussi son actualité, puisqu'on est aussi un relais d'information vis-à-vis de certains organismes, je pense par exemple au Parc Régional du Morvan, où régulièrement on publie des échos du parc dans nos colonnes.
Alors combien d'abonnés au Morvandiaux de Paris ?
À peu près 1000 abonnés. Au Morvandiaux de Paris.
Et cela suffit à consolider les finances de ce mensuel ?
Les finances ont pu se consolider lorsque notre secrétaire à mi-temps salarié a pris sa retraite il y a 2 ans et que grâce à elle, elle continue bénévolement à assurer le secrétariat. Donc nous sommes une association entièrement constituée de bénévoles et on va essayer de tenir le maximum de temps. Mais aujourd'hui, les subventions se font de plus en plus rares, notamment dans le domaine culturel.
Alors, vous êtes aussi à la tête du jury du prix littéraire du Morvan.
Alors ça, c'est une autre activité. Effectivement, le prix du Morvan, le jury du prix du Morvan se réunit tous les 2 ans et nous décernons tous les 2 ans les prix du Morvan. L'an dernier, donc en 2010, nous l'avions décerné à Saulieu. Et je peux vous annoncer une nouvelle, puisque nous avons décidé, pas plus tard que ce matin, avec Madame Delarue et avec la maire, Madame Rignot, de remettre les prix du Morvan 2012, ici, au salon à Bain du Livre, à Saint-Honoré, l'année prochaine.
On s'éloigne du Morvan pour des contrées plus exotiques, en compagnie d'un ancien marinier qui vit sur une péniche. Jean-Pierre Midaven est venu à Saint-Honoré-les-Bains dédicacer un livre de souvenirs qui nous emmène de Dakar, Abidjan à Mopti, ou vers Tombouctou, à pied, en pirogue, à cheval, ou encore en vieille 404. Révérences africaines, aventure d'un bourguignon dans l'Afrique des années 1970, est paru aux éditions de l'Escargot Savant, et c'est signé Jean-Pierre Midaven.
Alors, c'est un livre, c'est un voyage que j'ai fait il y a 40 ans, puisque j'ai beaucoup voyagé, j'ai été plusieurs années hors de France. Et suite à l'obtention du prix spécial de la ville de Dijon, un éditeur m'avait venu me proposer de rééditer un livre, ce livre qui avait déjà été édité précédemment, il y a une vingtaine d'années. Et donc, ce voyage n'a rien d'exceptionnel, il a simplement d'exceptionnel, c'est qu'il date de 40 ans. Et l'Afrique de 40 ans n'est plus du tout celle d'aujourd'hui, bien sûr à cause du contexte géopolitique, puisqu'il y a des tas de pays que j'ai traversés sans aucun souci qu'on pourrait plus traverser aujourd'hui, à moins de vouloir absolument revenir avec la tête sous le bras. Et puis, des anecdotes, on en rencontre plein en voyage, mais comme j'ai toujours été cavalier, j'ai rencontré un coopérant qui voulait absolument avoir un cheval, donc nous avons trouvé un cheval ensemble au nord du Cameroun. Et j'ai pris l'initiative donc de le ramener au sud Cameroun, ce qui m'a valu quelques bonnes surprises au sud Sénégal, puisqu'il n'y avait pas de chevaux. Et le problème n'était pas de monter ce cheval, parce que je le faisais de nuit en général pour ne pas subir la chaleur, mais c'était d'affronter les populations, d'affronter la peur des populations qui ne voyaient pas de cheval et qui voyaient là un mauvais démon sorti de la forêt.
Et puis un blanc avec des cheveux blonds jusque dans le dos.
J'avais à l'époque 30 cm de cheveux dans le dos, j'étais blond comme les blés. Alors voir un cheval avec un homme à crinière en plus, ça intriguait beaucoup. Donc les difficultés sont venues plus du côté relationnel que de transporter le cheval, mais ça a été une belle histoire.
Jean-Pierre Midaven, auteur de Révérences africaines aux éditions de l'Escargot Savant. Elle nous a quittés il y a quelques jours, à l'âge de 93 ans. On l'avait surnommée la Dame Blanche de Saint-Germain-des-Prés, parce qu'à une époque où le noir était de rigueur chez Juliette Gréco, la Dame en noir, eh bien elle s'habillait toujours en blanc pour marquer sa différence. Avec elle, s'est éteint une figure majeure de la chanson française traditionnelle. Il s'agit de Cora Vauquer. Nous lui rendons hommage ce soir sur Radion avec un de ses titres, « Retour à Montmartre ».
J'ai remonté la rue Le Pic après tant et tant d'années. J'ai cherché les vieilles boutiques, mais je n'ai rien retrouvé. Des buildings brillaient dans l'ombre sous un tas de publicités, et des cars grimpaient en nombre bourrés d'étrangers. Montmartre, mon vieux, dis-moi donc un peu, dis-moi donc pourquoi, en revenant chez toi. Montmartre, mon vieux, dis-moi donc pourquoi, je ne reconnais plus l'aspect de tes rues. Utrillo vendait ses toiles de leader rouge au bouna, et y avait plus de cigales que de fourmis en ce temps-là. Au-dessus d'un mur en planche où chacun gravait son cœur, des lilas tendaient leurs branches pour porter bonheur. Montmartre, mon vieux, dis-moi donc, dis-moi donc pourquoi, en revenant chez toi. Montmartre, mon vieux, dis-moi donc pourquoi, je ne retrouve pas mon cœur d'autrefois. Les durs portèrent aux flaquettes et frocs à pattes d'éléphant, mais respectaient les poètes et savaient chanter bruyant. La vie nous semblait facile, on vivait au jour le jour, on se fichait des billets de mille, seul comptait l'amour. Montmartre, mon vieux, si je t'en veux un peu, c'est qu'en revenant flâner comme avant, c'est qu'en revenant chercher mes 20 ans, j'ai compris soudain qu'ils étaient bien.
Radion, Radion, au cœur de la Bourgogne, Radion.
C'était Cora Vauquer sur Radion, Cora Vauquer qui nous a quittés il y a quelques jours à l'âge de 93 ans. Elle est auteure, mais également magnétiseuse installée à Longwy. Elle s'appelle Michèle Bellet et devant le micro de Radion, elle nous explique comment elle a pris conscience de ses talents.
Et il se trouve qu'à une période, donc il y a plus de 20 ans, j'ai été malade et les médicaments que mon médecin me proposait ne me convenaient pas, n'aboutissaient pas, ne résolvaient rien du tout. Et donc c'est une amie qui m'a dit « Mais pourquoi tu n'irais pas voir une magnétiseuse ?» Et c'est vrai que j'en avais tellement assez de ces douleurs que je n'arrivais pas à résoudre. Finalement, je suis allée voir cette magnétiseuse et c'est elle qui m'a dit en plein été que je lui faisais chaud pendant la première semaine, alors qu'il faisait chaud, effectivement. Et puis la semaine suivante, il faisait toujours très chaud, et voilà que je lui faisais froid. Donc c'est elle qui a eu la gentillesse et l'honnêteté de me dire que je devais être plus forte qu'elle. Et elle m'a appris ensuite à écouter mes mains, donc mes ressentis, la chaleur, toutes les vibrations qu'on peut écouter, même chacun, en regardant même les yeux ouverts à l'intérieur, dans le creux, la paume de la main. On sent une chaleur qui se forme, qui est même de plus en plus dense, de plus épaisse. Donc c'est à apprendre.
Concrètement, à qui pouvez-vous être utile ?
À tous les êtres vivants, en fait. Bon, j'ai encore pas magnétisé de perroquet ni de poisson rouge, puisque je dessèche les choses que je veux magnétiser. Quand je veux dire dessécher, c'est quand je m'exerce sur les oranges, les pommes, les bananes, les poissons, mais les petits poissons, pour apprendre à magnétiser, les roses également. Donc les personnes de tout âge qui ont des problèmes, que ce soit des nourrissons jusqu'aux personnes âgées, et également les chiens, les chats, occasionnellement les chevaux, et ça m'est arrivé de magnétiser des belettes, des petits furets, voilà.
Alors, vous êtes l'auteur d'un conte qui a pour titre « Looping, le cheval qui parle » aux éditions du Hérisson. Alors, c'est un conte, bien sûr, il y a une part de fiction, mais vous êtes inspiré d'un événement authentique à une époque où vous étiez dans un centre équestre.
Voilà, j'étais magnétiseuse bénévole dans un centre équestre. Qui se trouve vers Brazé-en-Plaine, donc le centre équestre,
en fait, c'est en plaine de Saône.
Le poney club de Lavaraude, exactement. Donc, où se trouve Looping qui existe, qu'on voit sur la pochette. Et ce brave Looping, donc je suis allée le magnétiser pour la première fois parce qu'il boitait. Et donc j'ai eu un gros coup de cœur pour ce jeune cheval qui est très expressif, qui est toujours en train de mâchouiller les t-shirts quand on passe près de lui, qui fait des mines de gros nounours. Enfin, c'est un cheval qu'on a envie de bisouiller, comme je dis. Et puis je me suis demandé ce qu'ils pouvaient penser de nous, des bipèdes, de la lune, les étoiles, les grenouilles, et j'en ai fait un conte pour tous les personnes amoureux du cheval de 10 ans à 100 ans.
C'était Michèle Bellet, magnétiseuse. Retrouvez les références de ses ouvrages sur son site internet www.magnétiseuse.fr. Présente au salon de Saint-Honoré-les-Bains, Amicie d'Ars est venue en voisine présenter Les larmes des Polonaises et la maison de cristal, tous deux publiés aux éditions de Boré. J'ai demandé à Amicie d'Ars de se présenter et de nous rappeler son parcours de journaliste.
Je travaillais pour le Marie-Claire, les éditions régionales du Marie-Claire. Et c'était pour ce magazine-là que j'avais fait un reportage il y a quelques années sur la colonie polonaise de Montceau-les-Mines et du Creusot. Et ce qui m'avait beaucoup intéressée, c'était la façon dont ils avaient en même temps conservé leur polonitude et leur intégration en France, et notamment donc dans le bassin minier, et les difficultés qu'ils avaient eues au départ pour commencer à travailler et à s'installer en tant que famille polonaise dans un milieu tout à fait étranger à eux.
Et physiquement difficile.
Et physiquement difficile aussi, bien sûr. Alors, ils arrivaient évidemment avec de gros problèmes de survie dans leur pays à la fin de la guerre de 14. Et c'était tout ce qui m'avait intéressé, c'était ce qu'ils m'avaient raconté. Et puis, quelques années après, quand un éditeur m'a demandé de pouvoir en faire un roman, j'ai donc repris les témoignages. J'ai approfondi tous les témoignages que j'avais eus avec les mêmes personnes pendant au moins 2 ans, et il en est venu donc ce livre qui est une fiction mais qui est tiré de témoignages réels et basé sur la vie quotidienne qu'ils ont pu avoir, que les Polonais donc et leurs familles ont pu avoir à partir de 1920 jusqu'en 1960.
Donc il s'agit, on va quand même mentionner le titre de ce roman, donc Les larmes des Polonaises de Amicie d'Ars, et c'est aux éditions Feuilles Bleues.
De Boré.
Éditions de Boré. Et Feuilles Bleues, c'est la collection.
Voilà.
Très bien. Alors aux éditions de Boré, également Amicie d'Ars, vous nous plongez dans l'Italie des années 50, mais là nous sommes plus précisément à Naples, et votre roman a pour titre La maison de cristal,
aux éditions de Boré Littérature, toujours donc sous votre plume. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter, certes, des corps méditerranéens et peut-être pas forcément idylliques ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Et ça, c'était aussi partie d'une expérience personnelle, parce que mes parents avaient un ami avant la guerre de 40, qui était réfugié en France pendant le fascisme, qui est reparti à Naples au moment de la guerre, et que mes parents ont revu juste après la guerre, en 1950, moi étant petite enfant avec eux. Et il en est sorti une amitié assez profonde, ce qui fait que je suis revenue, comme mes parents, nous sommes retournés en Italie assez souvent, et j'y ai même habité. Et ce roman, en fait, je l'avais déjà dans tête depuis mes 15 ans. Et puis, je me suis, après ça, plus renseignée sur ce qui s'était passé pendant la guerre et juste après la guerre. Et je me suis rendu compte combien le fascisme d'un côté et puis la guerre et surtout la fin de la guerre, avec d'abord l'occupation allemande, mais également l'arrivée des Américains et leur abondance, avait... presque, on pourrait dire, ce que disent d'ailleurs les Napolitains, pourri Naples, et on en fait ce qu'est devenu le Naples d'aujourd'hui. C'est à travers l'histoire de ces enfants un peu perdus, déboussolés d'après la guerre, que je raconte une histoire entre fascisme et les années 50, sur deux époques, à travers l'histoire de deux familles.
Les larmes des Polonaises et la maison de cristal, deux romans publiés aux éditions de Boré sous la plume d'Amy Sidars, que vous venez d'entendre à l'instant au micro de Radion. Place à la bande dessinée, cette fois-ci, Philippe Dufour, alias Duf, a dessiné durant de nombreuses années dans le journal du Centre. Médecin dans un centre qui accueille des polyhandicapés à Nevers, il est aussi auteur de bande dessinée. Il nous revient avec un nouvel album, Frise, les aventures du désormais célèbre bichon frisé Nivernais. Duf, au micro de Wagon Livre.
Je fais mes propres albums, je les édite et je les diffuse dans les salons de BD de la région et aussi de la France entière.
Alors on peut retrouver, j'allais dire, presque une BD historique, celle que vous avez produite pendant votre service militaire en 1989 et qui a pour titre, attention, Antoine Chabouillard, le premier héros de BD 100% grabataire. Dites donc docteur, vous y allez un peu fort.
Oui, alors c'est une BD qui a été rééditée par un éditeur un peu fou qui se trouve à Blois et qui a voulu rééditer cette antiquité qui montre les aventures d'un vieux pépé dans un hospice qui passe son temps à faire tout un tas de déjections variées, à délirer, à ploter les infirmières. Donc un humour de carabin qui m'a servi à faire rire tous mes copains à l'armée qui s'ennuyaient ferme un peu comme moi.
Avec donc le sous-titre « Panique à l'hospice ».
Voilà.
Alors il y a aussi, puisque vous êtes médecin, donc les aventures du docteur Eugène, médecin de famille. Donc la bande dessinée a pour titre « Allô Doc ». Et alors là aussi... Avec ce docteur Eugène, on est dans un humour très bidochon.
Voilà, c'est plus l'humour bidochon. Donc c'est le bêtisier de cabinet de médecin généraliste. J'ai exercé en cabinet libéral une dizaine d'années. Et donc j'ai noté un peu des perles, des attitudes, des tronches marrantes. Et j'ai mis ça en album.
Donc finalement, je vais finir par croire que vous n'avez pas eu tellement de difficultés à trouver des idées. Elles sont venues très facilement, presque... offerte par vos patients ?
Voilà, c'est ça. Il y en a qui étaient apportés sur un plateau. Bon, après, il y a tout le travail qui est à refaire par rapport au scénario, au dialogue, où il y a quand même le travail du bédéiste qui intervient, mais je pars un peu de faits réels. Oui.
Alors, Duf, une ou deux petites anecdotes de médecins en cabinet par rapport à des patients, des requêtes de patients. Par exemple, il y a des patients qui vous demandent d'ausculter aussi le chien.
Voilà, donc ça m'est arrivé de soigner l'otite du chien d'un patient qui tenait un bistrot, qui avait un énorme berger allemand très féroce, qui passait son temps à se gratter une oreille. Et un jour, j'ai dit, mais votre chien, il doit avoir une otite. Et le chien m'avait à la bonne, donc j'ai pu lui regarder l'oreille et j'ai pu lui donner des petites gélules pour soigner son otite. Du coup, il me faisait la fête après, quand il me voyait.
Alors, il y a votre travail le plus récent a pour titre, donc c'est Frise, voilà. Sous-titré Trop cool la vie, et ce sont les aventures d'un chien
mais la vraie vie d'un chien au quotidien, Duf.
Voilà, donc j'ai pris un petit peu ce que fait mon chien. Alors c'est pas une BD chien comme quand vous lisez Pif, ou Pif il lit le journal, il est globetrotter, il conduit une voiture, un avion. Bon non, là c'est vraiment la vraie vie du chien, qui est quand même surtout fait de dormir un peu tout le temps, de sentir les crottes de ses collègues.
Alors il fait une petite toilette, une petite toilette intime, mais au bout d'un moment il finit par dire que bon finalement après moult les chouilles, son trou de balle n'a plus de goût.
Oui, c'est comme les
chewing-gums. C'est un peu gore quand
oui,
même.
Oui, c'est comme les chewing-gums, si vous avez remarqué. Voilà, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça n'a plus de goût. Ouais. Donc, c'est un peu trash, oui, plus que gore, c'est-à-dire. Mais bon, si vous. Voilà, tous les amateurs de chiens s'y retrouvent bien et rient doublement parce qu'ils se disent, mais mon chien fait ça, en fait. Effectivement, vous avez raison, c'est tout à fait ça, la vie d'un chien.
Des murs sur les ronciers, au bord de l'Isère. On cueillait des murs et des baisers, encore un peu verts. On regardait les filles riaient, souriaient, sous leurs jupes jonquilles. Les fruits de l'été s'éveillaient, on cueillait les mûres sur les ronciers, au bord de l'Isère. Et si les ronceaux l'amour piquait, la belle affaire, c'était l'âge où l'on remplissait nos premiers cendriers. On rêvait de vivre sans se plier, histoire de se distinguer. C'était l'âge où l'on se saoulait de toutes les idées. On cueillait des mûres sur les ronciers après le ciné. Ces vieux films en noir et blanc, mais faits comme on les aimait. On parlait pour les filles écoutaient à côté. Il fallait que l'on brille pour les approcher de plus près. L'on refaisait le monde qu'on voulait, le sourire aux lèvres pour mieux cacher qu'un jour tout allait changer. C'était l'âge où l'on attendait l'avenir qui venait. On cueillait les murs sur les ronciers au bord de l'Isère. Et si les ronds sous la vie piquaient, la belle affaire. Il n'y a plus de murs ni de ronciers au bord de l'Isère.
Il est acquis, hein? Le Yuki, c'était Richard Gottener. Si vous le voulez bien, faisons connaissance avec Simone Munch, auteure de 9 romans et qui était présente à Bain de Livres à Saint-Aulle le 10 août dernier, à la salle Sidney Béchette, en plein cœur du Morvan, à Saint-Honoré-les-Bains.
Je suis en train de retraduire une partie de À la recherche du temps perdu de Proust. J'ai déjà traduit un livre de Proust, de Diderot aussi. Mais en fait, oui, c'est surtout Houellebecq et Kundera qui sont mes auteurs en ce moment.
Alors, vous habitez en France depuis plusieurs années ?
Depuis 2003, donc je me suis installé dans le Morvan.
Et vous parlez un français impeccable ?
À peu près, j'espère.
Et vous traduisez Michel Houellebecq en néerlandais, mais comment devient-on le traducteur, j'allais dire presque officiel en néerlandais de Michel Houellebecq ? Qui vous choisit ?
En principe, c'est toujours l'éditeur qui choisit. Donc
l'éditeur néerlandais ?
Oui, l'éditeur néerlandais.
Est-ce que vous pouvez donner le nom de la maison d'édition pour laquelle vous travaillez ?
C'est la maison de Arbeiderspers. C'est la presse des travailleurs.
D'accord.
Bon, historiquement. Donc j'ai eu de la chance au début parce que l'éditeur m'a demandé de faire ça. Et après j'ai continué parce que j'ai beaucoup aimé cet auteur.
Alors, Martine Dehaene, l'ai-je bien prononcé ?
Oui.
À peu près qu'on a
vraiment. À peu près.
Martine Dehaene, finalement, grâce au travail des traducteurs, la littérature et les idées circulent. Donc, sans vous, il n'y a pas de circulation de la pensée, il n'y a pas de démocratie des idées ?
Oui, c'est vrai, évidemment, mais moi, j'aime toujours souligner l'autre côté, c'est que le traducteur est aussi un auteur de sa traduction. C'est un auteur créatif. Donc, le travail qu'on fait, c'est de recréer l'œuvre dans une autre langue.
Et oui.
Donc, ce n'est pas simplement faire circuler l'œuvre, mais aussi recréer. Donc, il y a plusieurs versions qui circulent.
Le travail donc du traducteur consiste à se réapproprier le texte original. C'est finalement une pression quand tout de même il s'agit de ne pas trahir,
oui.
D'essayer de se dire est-ce que j'ai bien rendu, est-ce qu'il y a des subtilités du français qui sont difficiles à rendre dans votre langue maternelle, le néerlandais ?
Oui, mais c'est bien ça. Je crois que déjà pour chaque lecteur, la lecture du roman est différente. C'est déjà le premier pas. Donc, et pour rendre ce texte dans une autre langue, c'est encore plus difficile parce qu'il faut essayer de rendre compte de tous les aspects du roman. Et en même temps, on a sa propre vision du texte. Donc, rester fidèle au texte et en même temps rester fidèle à sa vision, c'est là le point le plus important, je crois.
Alors, par exemple, pour traduire le texte de Houellebecq, intitulé « Plateforme », combien de temps cela vous prend-il pour traduire intégralement le roman du français vers le néerlandais ?
Là, je peux dire que normalement, des romans de cette taille-là, ça prend à peu près 6 mois pour moi. 6 mois de travail à plein temps. Donc, chez nous, on compte toujours en mots. C'est un roman de à peu près 100 000 mots, ce qui pour moi représente 6 mois de travail.
Donc. Et le personnage un peu sulfureux de Houellebecq, vous l'avez rencontré ?
Oui, bien sûr. Oui.
Et quel homme est-il ?
Oh, moi, je l'aime bien.
Avec cette manière étrange de tenir sa cigarette,
oui.
Prenant le temps avant de répondre.
Oui, prendre le temps. Je trouve ça bien. Il est bien lui-même. Je sais bien qu'il peut être difficile pour à la télé. C'est pas facile de l'interviewer, par exemple. Mais moi, j'ai pas de problème avec lui.
Évidemment, je suppose que Michel Houellebecq ne peut pas vérifier si vous avez bien traduit son roman en néerlandais.
C'est vrai.
Vous donne-t-il des consignes ?
Pas de consignes, mais évidemment, moi, je pose mes questions parfois, parce que quand j'ai des questions sur le texte ou même sur mon approche. Mais lui, c'est un écrivain qui comprend très, très, très bien que c'est le traducteur qui est responsable du résultat. Donc, il y a aussi des écrivains qui se mêlent de tout sans comprendre la langue. Ça, c'est un peu délicat.
Et alors, quel est votre prochain grand travail de traduction ?
Pour l'instant, je travaille sur plusieurs choses. Donc, je travaille sur Proust du côté de chez Swann. C'est un long travail. Je travaille aussi sur un livre de Régis Geoffrey qui s'appelle Univers, qui a eu un prix littéraire, je ne sais pas lequel, mais donc c'est des livres assez volumineux. Et je fais aussi, je vais m'attaquer à la poésie de Houellebecq. Ça, c'est un peu spécial. Donc, ça va prendre du temps.
Cette émission de compte-rendu du Salon du Livre de Saint-Honoré-les-Bains se termine et je vous remercie de l'avoir suivi. Avant de vous laisser en compagnie du programme musical de Radion, sachez que la Bibliothèque municipale d'Auxerre organise une conférence animée par Jean-Pierre Soisson autour de son livre « Saint-Germain d'Auxerre » paru aux éditions du Rocher. L'occasion de revisiter la vie du grand évêque gaulois Saint-Germain d'Auxerre, né à Auxerre vers 378 et mort à Ravenne en 448. C'est une conférence donc animée par Jean-Pierre Soisson, vendredi 30 septembre à 19h à la bibliothèque Jacques Lacarrière d'Auxerre. Du mardi 27 septembre au dimanche 2 octobre prochain se tient à la bibliothèque d'Aquin, près de Vézelay, une exposition de photographies de Philippe Gabel sur le thème des vides-greniers, là où les objets font le trottoir. Ces photos ont fait l'objet d'un livre paru au début de cette année aux éditions Créafis, et ce livre contient également des analyses éclairantes de l'anthropologue Octave Debary, maître de conférences et chercheur au CNRS. Alors, le dimanche 2 octobre prochain, à partir de 15h à la salle des fêtes d'Aquin, nous enregistrerons pour Wagon Livre, en public, une émission avec les auteurs de ce livre, intitulé donc « Vide-grenier ». Nous serons donc en compagnie de Philippe Gabel et d'Octave Debary pour une rencontre-débat que j'animerai et au cours de laquelle donc sera enregistré un numéro de Wagon Livre et qui sera diffusé prochainement sur l'antenne de Radion. C'est une rencontre-débat organisée conjointement par la mairie d'Aquin, la bibliothèque municipale d'Aquin et l'association des amis de Vézelay que préside Pierre Maurice. Ce sera donc dimanche 2 octobre prochain à 15h à la salle des fêtes d'Aquin. Venez donc assister à l'enregistrement de Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radion. Et puis, bien évidemment, ne manquez pas le salon de Migennes le dimanche 9 octobre prochain. C'est le 8e salon du Salon du Livre de Migennes qui a lieu tous les deux ans. Il se tient de 10h à 18h30 à la salle des sports de Migennes. Et cette année, l'invité d'honneur sera l'écrivain Didier Deninx. On annonce également la présence de Richard Boringer, ainsi que Thierry Roland, Jane Manson, Didier Cornaille. Au total, 110 écrivains, libraires, éditeurs et artisans du livre seront donc rassemblés à Migennes à la salle des sports le 9 octobre prochain de 10h à 18h30. Je vous retrouve sur les ondes la semaine prochaine, mercredi 5 octobre, toujours à 21h. Nous reviendrons sur 40 ans d'histoire au Parti Socialiste avec notre invité Daniel Vaillant, l'ancien ministre du gouvernement Jospin, actuel maire du 18e arrondissement de Paris et député. C'est donc dans Wagon Livre, mercredi 5 octobre prochain à 21h, toujours sur votre radio locale. Excellente fin de soirée à toutes et à tous sur Radion. Merci de votre attention. Au revoir.